Bonsoir Fabienne Sintès.
Ah bah dites donc, c'est le festival de la raouette.
Ouais. 18h01, à vous.
Non, pas tout à fait. Salut Charline et les amis, à demain. Pour nous, c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 17 juin avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec des peines de prison ferme.
Un an de prison dont 6 mois ferme requis à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans le procès Big Malion. Pour les 13 co-prévenus, des peines allant de 18 mois à 4 ans d'emprisonnement avec sursis ont été requises. On retrouvera Laurélie Carive au tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient 4 heures pour philosopher. Beaucoup d'élèves de terminale sont partis au bout d'une heure, préférant garder leurs notes du contrôle continu. Épreuve ce matin des écrits de philosophie pour plus de 500 000 élèves pour ce bac 2021 très particulier. Crise sanitaire oblige. Et c'est une conséquence de cette crise. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a encore plus de difficultés que d'habitude à recruter pour l'été. Illustration dans la Creuse. Nous irons à Tokyo dans ce journal où, à un peu plus d'un mois des JO, l'état d'urgence s'apprête à être levé.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir en Iran, à la veille des élections, élections qui ne laissent pas beaucoup de doutes. Tout a été fait pour arranger un candidat très conservateur. On va regarder les chiffres de l'abstention, bien sûr, qui parle aussi du ras-le-bol d'un système chez les Iraniens. À 19h20, le téléphone sonne. Allô patron, voilà, j'ai déménagé à 200 km et j'aimerais bien qu'on organise mon télétravail en fonction. La levée progressive des restrictions Covid laisse parfois les entreprises dans des situations bien inédites. La fin du télétravail pour tous fait apparaître des situations complexes. On savait que l'entreprise serait chamboulée. Maintenant, la question c'est, peut-on travailler à la carte? Chef d'entreprise et salarié, appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter.
Après un mois d'audience, donc, c'était jour de réquisitoire dans l'affaire Big Malion.
Big Malion, du nom de la société qui organisait les meetings de campagne présidentielle du candidat Nicolas Sarkozy en 2012. 14 prévenus, dont l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, jugé pour financement illégal de campagne électorale. Un an de prison, dont 6 mois ferme requis aujourd'hui contre lui. Pour ces 13 co-prévenus, de 18 mois à 4 ans de prison avec sursis ont été requis. Nicolas Sarkozy était venu mardi pour être interrogé sur les dépenses excessives de sa campagne et uniquement mardi. Laurélie Carive, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Sarkozy n'était donc pas à l'audience aujourd'hui pour entendre les mots très durs prononcés par le duo de procureurs.
Oui, une absence soulignée d'entrée de jeu par la procureure Vanessa Perret. Elle fustige cette façon pour l'ancien président de, je cite, « ne pas se considérer comme un justiciable comme les autres, ni comme un citoyen parmi les citoyens. Car le candidat est responsable de ses comptes de campagne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi », martèle la représentante du parquet qui tense la désinvolture de Nicolas Sarkozy. Évidemment, il n'avait pas à vérifier les factures, mais aurait dû se donner les moyens de contrôler. Il avait reçu les notes d'alerte des experts comptables. Il savait que sa campagne était dans le rouge. Et pourtant, on continue les meetings. 6 millions d'euros pour Villepinte, 2,9 millions pour la Concorde. Et à la barre, il nous a dit se contenter d'une bonne sono et d'un bon éclairage. C'est une fable. Une campagne, c'est comme le sport de haut niveau, lance-t-elle. Le financement illégal est aux candidats, ce que le dopage est aux athlètes. Avant de conclure, plus que quiconque, de par son expérience, ses fonctions, le président candidat devait respecter et faire respecter les dispositions du code électoral. Il ne l'a pas fait, qu'il en assume les conséquences aux côtés de ceux qui ont travaillé pour lui.
Merci Laurélie Carive au tribunal correctionnel de Paris avec les moyens techniques de Georges Thau. Le procès dure jusqu'à mardi avec les plaidoiries de la défense. Ils avaient 4 heures pour plancher. Plus de 500 000 lycéens ont passé la seule épreuve du bac qui est maintenue avec le grand oral qui aura lieu lundi. L'écrit de philosophie ce matin. Et certains sujets de dissertation font d'ailleurs résonance à l'actualité. Par exemple, discuter, est-ce renoncer à la violence ou encore... sommes-nous responsables de l'avenir? De grandes réflexions, mais sans grands enjeux pour beaucoup d'élèves. Entre le contrôle continu et la note obtenue à l'épreuve, c'est la meilleure note qui est retenue, à condition d'avoir rendu sa copie même blanche. Du coup, beaucoup sont partis au bout d'une heure.
Moi, j'ai visé le contrôle continu, ça veut dire que je suis parti au bout d'une heure. Du coup, ça a rien changé, les sujets hein, peuvent être difficiles ou faciles, c'était pareil.
C'est quoi ta moyenne de contrôle continu?
14,5. C'est pour ça, c'est plus rentable.
Moi, j'ai 12 et j'ai pris le sujet le plus simple. J'ai fait 2 pages.
J'étais pas très inspiré. Dans tous les cas, j'aurais mon bac, donc pas besoin de rester 4 heures en philo.
Y a pas d'enjeu, rien du tout. C'est pas un bac, c'est un bout de papier au final, c'est juste pour aller en école supérieure. Y a juste le grand oral là qui arrive, c'est la seule épreuve concrète, mais sinon, y a plus rien.
Voilà, témoignage d'élèves de Saint-Étienne recueilli par Céline Autain de France Bleu Saint-Étienne Loire. Parmi les nouveautés de ce bac 2021, Toutes les copies, la philosophie ce matin, le français cet après-midi, sont numérisées pour éviter notamment les pertes de copies et pour faciliter les corrections. Stéphane Boucher est proviseur adjoint du lycée Montesquieu à Herblay dans le Val-d'Oise. Après le travail des élèves, place à celui du personnel.
Nous avons un appareil qu'on appelle un scanner, hein, et donc cet appareil que nous avons déjà testé il y a quelques semaines au niveau national pour tester la robustesse du réseau, eh bien nous allons là y introduire les copies par bloc de, alors nous allons le décider, hein, mais par bloc de 20, 50, 100 copies, et qui seront immédiatement numérisées, qui seront ensuite corrigées. Les enseignants corrigent sur un écran, reçoivent leur lot de copies sur un écran. Donc nous allons conserver les formats papier, mais dès que le scan sera terminé, les copies seront immédiatement au format dématérialisé et dispatchées sur des jurys, alors à partir de demain.
Un propos recueilli par Sonia Princey. Respirer en toute liberté, première journée démasquée aujourd'hui à l'extérieur. Au lendemain de l'annonce du Premier ministre Jean Castex, on a pu marcher dans la rue et croiser de vrais sourires après plusieurs mois de masques sur le nez. L'épidémie recule, moins de 5000 nouveaux cas de contamination par jour. Le Premier ministre Jean Castex évoquait hier un moment heureux de retour à une forme de vie normale. Alors comment se déroule ce retour à une certaine normalité pour les professionnels, les patrons de bars et restaurants qui ont commencé à ouvrir leurs terrasses puis leurs portes, respectivement le 19 mai et le 9 juin. Reprise et perspective pour l'été difficile, il manque des bras. Les deux tiers des restaurateurs creusois, par exemple, ont du mal à recruter des saisonniers. C'est un problème récurrent, mais la crise sanitaire rend la tâche encore plus difficile, comme l'a constaté Camille Montagneau dans la Creuse.
Du soleil, une terrasse face à la Creuse, des clients, Calquigue a presque tout pour être heureux. Seul bémol pour le gérant de l'auberge des pêcheurs à la Selle du Noise. Il lui manque 6 salariés pour que son équipe soit complète.
On a pas mal de petits jeunes, le job d'été, d'étudiants et tout comme ça. Mais par contre, il nous manque de gens expérimentés. Moi, je veux bien embaucher les gens, je suis pour. Mais là, on ne peut pas. Là, on est bloqué.
L'Irlandais a même essayé de faire venir des volontaires d'Irlande sans succès. Alors, après avoir essuyé des semaines de 90 heures, il a été contraint de faire un choix.
Parce qu'on ne trouve pas le personnel expérimenté. Le choix qui nous reste, c'est de fermer le lundi toute la journée. On va fermer un mardi midi et un vendredi midi.
Réduire ses services ou refuser des clients malgré les places disponibles, un crève-cœur pour beaucoup de restaurateurs. Mais pourquoi ces métiers connaissent-ils une telle perte d'attractivité? Réponse avec Éric Mochossa, gérant de La Plage, le restaurant de Courtille à Guéret.
C'est un métier qui est très dur. On trouve de moins en moins de personnel. Et avec le Covid, les saisonniers, l'hiver, ils n'ont pas pu faire de saison à la montagne. Donc ils ont changé de métier et ils sont partis dans une autre vie.
Contrairement à ce qu'il prévoyait initialement, le Guéretois n'ouvrira pas la salle de son restaurant cet été par manque de personnel. Il attendra la fermeture de sa terrasse en septembre prochain.
Reportage Camille Montagnon de France Bleu Creuse.
La crise sanitaire a-t-elle aggravé le surendettement?
La Banque de France vient de publier son rapport annuel sur l'inclusion bancaire, c'est-à-dire les clients en difficulté financière. Et jamais, au cours de ces dernières années, la France n'avait recensé autant de clients dits fragiles. Leur nombre a augmenté de 12% par rapport à 2019, donc avant la crise du Covid. Mais les signaux ne sont pas aussi décourageants qu'ils n'y paraissent, Sophie Auvigne.
3 800 000 clients en situation délicate fin 2020, c'est 12% de comptes fragiles supplémentaires depuis un an. Alors faut-il y voir une alerte? Eh bien ce chiffre n'est pas si simple à interpréter. Pour la Banque de France, c'est un succès. La preuve qu'on détecte les fragilités de mieux en mieux grâce à un nouveau système. 5 incidents bancaires en un mois et le client en difficulté est placé sous protection. Ses frais bancaires plafonnés à 25 euros pendant 3 mois. Et il faut continuer à repérer les problèmes très tôt selon la Banque de France. La cellule d'alerte créée en plein confinement l'an dernier restera d'ailleurs active pour une prise en charge express. Il y a aussi les points conseil budget, 400 désormais, où les associations sont très présentes. Et effectivement, le surendettement continue de reculer en France. Alors mettons entre parenthèses 2020, année très spéciale où le nombre de cas a chuté d'un quart. Mais depuis le début de l'année, la baisse est encore de 17% comparée à 2019.
Éclairage signé Sophie Auvigne. C'est une demande des associations, des militants et des principaux concernés que le calcul de l'allocation adulte handicapé ne prennent plus en compte les revenus du conjoint du bénéficiaire. Le gouvernement a contraint l'Assemblée nationale à voter une révision du calcul de cette allocation, mais en écartant cette demande, cela veut dire que les revenus du conjoint vont continuer à être pris en compte pour le calcul de la prestation de solidarité aux personnes handicapées. Ambiance survoltée dans l'hémicycle, nous y reviendrons dans le journal de 19h. La campagne des régionales et des départementales s'accélère à 3 jours du premier tour. Aujourd'hui, elle prend clairement des allures de course à l'Élysée, à 10 mois de la présidentielle. Marine Le Pen est allée soutenir le numéro 1 de la liste Rassemblement National en région PACA, Thierry Mariani, favori des sondages. Lors d'un point presse à ses côtés à Toulon, elle a décrit Renaud Muselier, tête de liste LR, comme étant la marionnette, je cite, d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, le président poursuit son tour de France, entamé le 2 juin dernier dans le Lot. Il a fait étape dans les Hauts-de-France, sur les terres de Xavier Bertrand, son adversaire déclaré pour 2022. Bain de foule, rencontre avec des élèves et des parents d'une école primaire de Poix de Picardie, à une 20aine de kilomètres d'Amiens. Le chef de l'État s'est également rendu à Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine, dans l'Aisne. Emmanuel Macron annonce comme prévu que la lecture sera grande cause nationale de l'été 2021 à l'été 2022. Alors, dans 3 jours, il y a le premier tour des régionales, mais aussi des départementales. Et un des départements qu'il va être intéressant d'observer, c'est le Val-de-Marne en Ile-de-France. Dernier bastion communiste en France. Il est présidé par Christian Favier du Parti communiste. 4 villes stratégiques de gauche sont tombées aux mains de la droite l'année dernière. Alors après 45 ans de règne communiste, la donne pourrait-elle changer, Valentin Belleville ?
À droite, c'est une certitude, le bastion va tomber. Une nouvelle sanction après celle des municipales pour Olivier Capitanio, candidat Les Républicains dans le Val-de-Marne.
On a bien mesuré une aspiration au changement, en particulier dans des villes qui étaient des bastions historiques du Parti communiste.
Du côté du Rassemblement national, le chef de file Gaëtan Dussausset entend bien tenir le rôle d'arbitre. Il l'assure, le département ne tombera pas sans son électorat.
Si la droite tient à tout prix à retirer le département aux communistes, il faudrait éviter de faire ce qu'elle a fait par exemple à Marseille, c'est-à-dire refuser de travailler avec nous et laisser la ville gagner à gauche.
Avec la montée de l'extrême droite dans les sondages ces derniers mois, le PCF ne se fait pas d'illusions. Le RN va compter dans le Val-de-Marne. Christian Favier, président communiste du département, candidat à sa réélection.
On aura très certainement, de toute façon je pense, les candidats du Rassemblement National au second tour dans ce département. Alors ça pourra être parfois face à la gauche, parfois face à la droite, mais cette hypothèse-là existe.
Enfin, La République En Marche, en cas de victoire, on jouera la carte de l'humilité, explique Frédéric Descrozailles, député LREM.
Jamais on n'ira raconter que c'est grâce à nous qu'il y a eu cette bascule historique. Maintenant, s'il bascule au niveau national, ça aura un retentissement historique, c'est certain.
La République En Marche qui se dit prête à discuter avec toutes les forces politiques en vue du second tour.
À l'étranger maintenant, l'avion de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'apprête à atterrir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Il était exilé depuis 10 ans à Bruxelles, un retour possible en raison de son acquittement par la Cour pénale internationale. Décision confirmée en mars dernier en appel. Abidjan a également donné son feu vert au nom de la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité après les violences qui sont survenues après sa défaite en 2010 face à Alassane Ouattara et qui avaient plongé le pays dans la guerre civile. Ces violences avaient fait plus de 3000 morts.
Et voilà maintenant une nouvelle rassurante pour les participants aux JO de Tokyo.
À 36 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, le Premier ministre japonais annonce la levée de l'état d'urgence dimanche. Il court depuis le mois d'avril. Mais attention, il y a une série de règles à respecter. Les participants seront testés, surveillés, encadrés comme jamais et même sanctionnés en cas de dérive. Karine Nishimura est à Tokyo.
Pour le Premier ministre Yoshihide Suga, lever l'état d'urgence à Tokyo, c'est confirmer la volonté absolue de maintenir ces Jeux Olympiques qui sèment la discorde dans l'opinion. Mais comme la situation n'est pas totalement maîtrisée à Tokyo, que tous les experts craignent un rebond épidémique, même si cela ne s'appelle plus état d'urgence, des mesures restrictives diverses touchant notamment les horaires des restaurants sont maintenues. Le Premier ministre fait désormais des JO un engagement vis-à-vis de la communauté internationale.
Les pays du G7 ont exprimé leur soutien à la tenue des Jeux Olympiques et cela a été clairement écrit dans la déclaration conjointe. Je veux montrer au monde depuis le Japon qu'en étant unis, il surmontera les difficultés de la pandémie.
Même si tout est fait pour rassurer l'opinion, elle se demande d'où vient cette obstination. Réponse de l'intéressé.
Je pense que l'on peut organiser des jeux sûrs. Ce n'est ni de la fierté, ni de l'incapacité de dire non, ni pour des raisons économiques.
Les experts insistent sur le fait que le danger épidémique découle moins des participants étrangers que des mouvements de population que risquent d'entraîner les JO, surtout si, comme le souhaite le Premier ministre, il y a du public japonais. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Lui n'ira ni aux JO de Tokyo, ni à Wimbledon, moins d'une semaine après avoir été détrôné à Roland-Garros. Raphaël Nadal préfère écouter son corps.
Et il a bien raison, Mariam El Kurdi pour le journal. Merci beaucoup Mariam. À tout de suite dans Un jour dans le monde. Vous nous emmènerez notamment en Côte d'Ivoire à nouveau, mais rien à voir, et aussi en Californie. Ce soir, nous allons en Iran, qui vote sans grande conviction demain, ou qui n'ira pas voter du tout. D'ailleurs, ce sera avec la première invitée dans un instant, et avec Franck Madvon qui est à Téhéran, et puis le 18-20 la suite, c'est le téléphone sonne. Une semaine après le relâchement du télétravail à 100%, voilà que certaines entreprises se retrouvent confrontées à des situations inédites, c'est peut-être votre cas, avec ceux qui veulent conserver du télétravail dans leur organisation, mais avec des salariés qui ont déménagé pendant les confinements, parfois à 200 km. Est-ce qu'on peut donc travailler à la carte? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'entreprise? Est-ce qu'on peut négocier de gré à gré, hors accord d'entreprise? Salariés, chefs d'entreprise, à vos téléphones au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel de demain, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Elodie Calac, bonsoir. Encore des nuages pour ce soir, Elodie?
Oui, des orages entre le sud-ouest et le nord, des orages parfois forts avec des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. C'est le cas en ce moment sur le sud-ouest. Ces orages, ils concerneront les 30 départements en vigilance orange en particulier. L'activité, elle faiblira seulement en cours de nuit prochaine. Demain, ça restera perturbé sur le nord-ouest avec des pluies parfois marquées orageuses qui persisteront juste sur la Normandie l'après-midi. Et puis un risque d'orage concernera encore le bassin parisien et le nord de la Seine.
Mais quand même plus de soleil ailleurs.
Oui, dans l'est, ce sera bien ensoleillé avec quelques orages isolés l'après-midi, principalement en montagne. Entre le sud-ouest et le centre, quelques averses le matin, mais c'est bien le soleil qui reviendra l'après-midi. Et puis il fera encore chaud dans l'est, 18 à 24 degrés le matin. D'ailleurs, je rappelle que le département du Rhône est toujours en vigilance orange pour la canicule. L'après-midi, il fera 30 à 34 degrés entre la vallée du Rhône, la Lorraine et l'Alsace, 23 à 29 ailleurs, et puis seulement 15 à 19 degrés près de la Manche.
Elodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Elodie, à tout à l'heure, vous reviendrez à l'heure